En notre diocèse de Bigorre, nous avons un grand nombre de sanctuaires où la Bienheureuse Vierge Marie est venue apparaître, est venue se révéler, est venue se manifester en prière silencieuse ou en quelque autre lieu apparaissant au-dessus de sources. Il y a un sanctuaire, j'ai eu l'occasion de vous en parler il y a quelques années, dans lequel la Sainte Vierge apparaît au commencement du XVIe siècle, le sanctuaire de Garaison. À Garaison, la Sainte Vierge, lorsqu'elle parle à une jeune fille qui s'appelle Anglaise de Sagazan, lui dit qu'elle a choisi ce lieu pour répandre ses dons. Le lieu de Garaison était un lieu très mal famé, non seulement parce que la route qui permettait de s'y rendre était occupée par quelques bandouliers, ce sont les émeutiers de l'époque, qui faisaient les poches des passants, ont risqué sa vie en traversant ces landes. C'était un lieu dont on disait qu'il était le rassemblement des sorciers de la Gascogne, où le démon venait présider chaque sabbat sous la forme d'un bouc, et la Vierge annonce qu'elle a choisi ce lieu maudit donc, pour répandre ses dons, un lieu qui mystérieusement s'appelait Garaison, c'est-à-dire guérison, et où la Vierge est venue répandre des dons, apporter la paix, manifester en un temps de famine combien elle est la mère de l'Église, et elle multipliera les pains pour une population nombreuse. Sur cette introduction, nous sommes à Lourdes. Et la question que nous pourrons nous poser, c'est pourquoi donc la Sainte Vierge a-t-elle choisi la grotte de Lourdes ? Lorsque nous serons au ciel, nous pourrons avoir une réponse extrêmement sûre de la bouche de Notre-Dame, mais en attendant, nous avons quelques éléments de crédibilité. Tout d'abord, qu'est-ce qu'était la grotte de Lourdes avant les apparitions ? Avant les apparitions, nous avions un porcher, qui s'occupe de porcs donc, qui s'appelait Samson, et qui, chaque jour de la belle saison, passait dans la ville de Lourdes et récupérait les différents porcs des différentes familles pour venir sur la rive de Massabielle, les faire descendre dans cette grotte qui était donc la tute aux cochons, qui était la porcherie municipale de la ville de Lourdes. Les porcs ne restaient pas en ville à la belle saison, on les amenait prendre le frais. Ils aimaient beaucoup la grotte de Massabielle parce que les porcs de Bigorre aiment beaucoup se gratter la couenne, de telle sorte que l'on y avait deux expressions à Lourdes. Qu'y a-t-il à Massabielle ? Seulement du sang et de l'eau. Qu'est-ce qui est sorti du cœur du Christ ? Et du sang et de l'eau. C'est dans ce lieu que la Vierge fera jaillir la source le 25 février 1858 à l'image du cœur de son fils. Elle nous dit « Allez à la source boire » et vous lavez. Ensuite, lorsque les enfants ne mangeaient pas comme ils se devaient, ne respectant pas trop bien les règles de bienséance, ou que le langage était parfois quelque peu grossier, il y avait une expression avant les apparitions, « Il a fait son éducation sur les rives de Massabielle ». Sous-entendu, ce petit garçon, cette petite fille, sont de véritables porcs, ils ne savent pas bien se comporter. Et nous voyons qu'après les apparitions, faire son éducation sur les rives de Massabielle, c'est se mettre à l'école de la Bienheureuse Vierge Marie, qui reprend sur les bords du Gave ce que Saint Jean-Baptiste avait commencé sur les bords du Jourdain, un appel à la conversion. « Convertissez-vous », nous disait le Baptiste, et la Vierge de dire à Bernadette « Il faut beaucoup prier pour la conversion des pécheurs et des pécheurs que nous sommes chacun ». De même, la Vierge va lancer, comme le Baptiste, un appel à la prière, un appel à la pénitence. Voilà ce qu'est faire son éducation à Massabielle aujourd'hui, c'est mettre ses pas dans ceux de Sainte Bernadette. Alors cette grotte bénie était donc occupée par de très nombreux porcs. On comptait à la belle saison entre 130 et 180 porcs qui venaient de 10h le matin jusqu'à peut-être 17h, 18h de l'après-midi, venir se rafraîchir sur ce lieu de Massabielle. La grotte telle que vous la connaissez aujourd'hui n'a plus grand-chose à voir. Même lorsque Bernadette y retourne, la seule fois après les apparitions, en 1861, elle aura ces mots « ma grotte, ma pauvre grotte ». Et elle ne sait même pas où se mettre. On lui dit pour une photo, la seule que nous avons de Bernadette à la grotte, « Veuillez vous mettre à la place où vous aviez l'habitude de vous mettre ». Et Bernadette est bien incapable de se situer, car tout a profondément changé. Aujourd'hui, le gave a été déplacé d'au moins 15 mètres du bord de la grotte, car à l'époque, le gave longe l'entrée de la grotte. Il y a également un canal qu'on appelle le canal de Savy. Nous sommes à peu près ici même sur le lieu de ce moulin qu'on appelait le moulin de Savy. Le canal prenait l'eau du gave un peu plus en amont et rasait l'entrée de la grotte. Juste à côté de la niche où apparaît la dame, c'est le lieu où le canal se jette à nouveau dans le gave. Lorsque nous étions à cette époque-là à la grotte de Massabielle, qui est toute petite, hein, c'est juste l'espace de l'entrée de la grotte, eh bien, nous étions au milieu des eaux. C'est un drôle d'endroit pour apparaître. C'est également un drôle d'endroit pour demander que soit bâtie une chapelle. Mais non sans audace, les architectes ont pu, à de nombreuses reprises, eh bien, réaliser à la fois la crypte, puis la basilique de l'Immaculée Conception au-dessus de la grotte, parce qu'il était bien difficile de mettre la basilique avec la grotte à l'intérieur, comme certains projets le prévoyaient. Donc on a bâti cette chapelle juste au-dessus du rocher. Et là encore, lorsque nous contemplons eh bien, la Bienheureuse Vierge Marie dans la niche du rocher, que nous levons la tête et que nous voyons ce qu'elle a demandé réaliser, la demande de la chapelle, nous ne pouvons que penser à la parabole dans laquelle le Seigneur nous invite à bâtir notre maison, notre vie, sur le roc. Et lorsque nous contemplons eh bien, la basilique élevée sur la grotte de Massabielle, eh bien, nous devons avoir en tête que cette image de l'église qui repose sur le roc, eh bien, l'image de l'église que nous formons ici-bas, nous aussi, nous ne devons pas fonder notre vie sur les sables mouvants de notre temps, mais nous devons fonder tout cela sur le roc, et le roc n'est autre que notre Seigneur Jésus le Christ lui-même. Ces innombrables ports au milieu des eaux, eh bien, nous permet également de comprendre que dans l'Ancien Testament, le porc est l'animal de l'impureté par excellence. Et c'est pourtant ce lieu où la toute pure, la Vierge Immaculée, va venir apparaître. Je vous ai dit qu'elle reprenait en cela le message de Jean le Baptiste, nous invitant à la conversion. Et lorsque nous sommes à la grotte, il nous faut penser également à la parabole du fils prodigue. Pourquoi ? Parce que le fils prodigue, après avoir réclamé sa part d'héritage, après avoir décidé qu'il ne voulait plus ni de son père, ni de son frère, ni de sa maison, alors qu'il part dépenser une grande somme d'argent dans une vie de désordre, nous apprendra le frère aîné, eh bien il va mener cette vie, puis tant de famine arrive, plus d'argent, il a tout dépensé. Ce juif, puisque le Seigneur met en scène tout de même un fils d'Israël dans cette parabole, trouve un travail, si l'on peut dire pour un juif, le plus dégradant qui soit, garder un troupeau de porcs. Alors pour nous, en Bigorre, ça ne serait pas du tout quelque chose de très mal vu que de garder des porcs. Au contraire, c'est une des fiertés de la Bigorre que d'avoir de bons et de gras cochons pour nos charcuteries. Mais pour un juif, c'est la déchéance totale. Garder un troupeau de porcs, l'animal interdit, l'animal qui, par son image, par son être même, est l'image même de l'impureté, de cette rupture d'avec Dieu. Lorsque nous lisons la parabole, il y a quelque chose qui devrait nous étonner, c'est que ce fils prodigue, quand il garde ce troupeau de porcs, il a très faim. Quelconque Français parmi nous, de souche pourrions-nous dire, qui serait en train de regarder ainsi un troupeau de porcs, ne penserait peut-être pas à se dire « Oh, qu'est-ce qu'ils ont de la chance de manger des glands ?» C'est pourtant ce que pense le fils prodigue. Il en vient à envier les glands que les porcs sont en train de manger. Et nous qui serions français, nous envierions plutôt le porc en disant « Mais imaginez la saucisse, imaginez le jambon, imaginez le saucisson que nous pourrions sortir de ces porcs !» C'est bien que le Seigneur met là en scène un fils d'Israël dans une déchéance totale. Il a quitté son père, il a arrêté sa famille, il a mené une grande vie de désordre, il est perdu. Et avant d'entrer en lui-même et de se dire « je vais retourner chez mon père, je ne suis plus digne d'être son fils, je vais faire amende honorable car j'ai péché contre le ciel et contre mon père », eh bien voilà que ce père, le voyant arriver, se jettera dans ses bras. Ces innombrables troupeaux de porcs qui ont façonné la petite ravine par laquelle descendra Bernadette pour aller aux apparitions, ces porcs qui ont également poli l'intérieur du rocher, là où nous mettons nos mains aujourd'hui, étaient donc, dans la tradition biblique, un lieu d'impureté. à l'image du monde qui, en s'éloignant d'avec le règne du péché, eh bien, perd cette image et cette ressemblance d'avec Dieu avec laquelle, en Adam et Ève, nous avons été créés. Et voilà que c'est ce lieu choisi d'impureté pour que la toute pure, la Vierge Immaculée, vienne se révéler. Lorsque vous aurez l'occasion d'entrer dans la grotte de Lourdes, il vous faudra, bien sûr, contempler le lieu de la source. Et un petit peu après, lorsque vous revenez et que vous passez sous la nisse rocheuse, je ne peux que vous inviter à lever la tête et à voir le passage par lequel la Sainte Vierge descendait à l'intérieur de la grotte. Ceux qui ont écouté les conférences depuis de nombreuses années savent que la Sainte Vierge n'était pas seulement dans la niche où se trouve aujourd'hui la statue, c'est la place où la Sainte Vierge apparaît tout d'abord, c'est la place de la prière où la Vierge attentive suit l'avancée de la prière de Bernadette. Elle ne bouge pas les lèvres, elle suit très attentive la prière de Bernadette depuis la niche rocheuse. Mais lorsque la dame doit parler à Bernadette, lorsqu'elle doit lui faire des confidences, eh bien la dame descend à l'intérieur de la grotte. Elle descend par une ouverture intérieure. Par exemple, le 18 février, c'est la première fois non seulement que Bernadette est à la grotte de bonne heure le matin, elle est en compagnie de Madame Millet, dont on est payé, qui l'ont accompagnée ce jour-là, et Madame Millet avait un projet très précis, deux très bonnes questions qu'il fallait se poser. C'est « Qui est donc cette jeune demoiselle et que veut-elle ?» Donc elle a appris une belle formule à Bernadette, « Mademoiselle, auriez-vous la bonté de bien vouloir me dire votre nom s'il vous plaît ?» Bernadette donc a appris cette phrase en patois par cœur. Et le projet de Madame Millet est très simple. Une fois que le chapelet est terminé, Bernadette, vous vous levez, vous avancez. Antoinette Peyret, c'est la fille de l'huissier de justice. Elle a emprunté à son père une écritoire, du papier, de la plume pour que la dame puisse écrire son nom. Et nous comprenons bien, en étant au bord de la grotte, que quand bien même Bernadette, qui mesurait 1m40, aurait élevé très fortement son écritoire, ça aurait été très incommode pour la dame que de se pencher, on ne sait comment, de prendre la plume et d'écrire éventuellement son nom. Mais Madame Millet, ça ne l'avait pas arrêté. Elle ne connaissait pas d'abord les lieux parce qu'elle n'y avait jamais été. Bernadette dit son chapelet ce 18 février, puis à la fin du chapelet, se lève, on lui donne l'écritoire et elle va demander à la dame. Et Bernadette, c'est la première fois qu'elle se lève en présence de la dame. Déjà le 11 février, après le coup de vent, elle est à genoux. 14 février également, dès qu'elle arrivera à la grotte, elle se mettra à genoux pour prier le chapelet. Là, la dame va lui parler pour la première fois. Bernadette se lève, elle avance. Et les deux dames la suivent également. Puis Bernadette, qui se rend compte, peut-être qu'elle ne s'en rend même pas compte, elle ne peut pas parler à ce moment-là parce qu'elle est en extase, du coup fait un geste à l'arrière de son dos pour dire à ces dames d'arrêter. Parce que Bernadette vient de constater une chose, c'est que lorsqu'elle avance, la dame recule. C'est quand même embêtant. Alors du coup, elle fait arrêter ses dames. Les dames se disent finalement, la dame ne nous veut pas dans la grotte, donc elles se mettent derrière quelques rochers en tournant la tête quand même. Et Bernadette se rend compte que lorsqu'elle avance, non seulement la dame recule, mais si elle recule, c'est pour descendre par la cavité intérieure et aller se mettre dans la grotte. De telle sorte que la dame, dont Bernadette dira qu'elle lui arrivait aux épaules, c'est-à-dire environ 1 mètre, cette petite et très jeune demoiselle, on l'a appelée une dame, ou plutôt on a fait appeler la Sainte Vierge par le mot de dame, alors que Bernadette est toujours mademoiselle, ou alors Akero, celle-là, ça reste encore plus mystérieux. On a dit dame parce que les sœurs de Nevers, on les appelait les dames de la charité de Nevers, et que du coup ça faisait mieux de dire dame, parce qu'on trouvait que, imaginez la Sainte Vierge très jeune et très petite, ce n'était pas très... ça ne sciait pas à la grandeur de la Sainte Vierge, et puis même à son état de vie, elle était très jeune, et pourtant Bernanos nous dira dans un de ses ouvrages que la Vierge est celle qui est plus jeune que le péché. Je pense que c'est cette jeunesse de l'Immaculée que Bernadette a pu contempler. Donc la Vierge descend dans la grotte, et Bernadette se trouve face à elle. Il y a comme une sorte de préséance respectée par la Sainte Vierge, c'est que je vous ai dit que la grotte était pleine et au bord des eaux, de telle sorte que les eaux débordent régulièrement à l'intérieur de la grotte de Lourdes. On l'a vu il y a quelques années, mais ça c'était pour d'autres raisons. Et du coup, Une fois que ce gave ou que le canal de sa vie déborde, la terre, si vous voulez, remplit la grotte. Donc il ne faut pas imaginer la grotte telle que nous la connaissons, qui a été bien abaissée, dans laquelle on a mis un dallage, on a enlevé d'énormes rochers qui ouvraient cette grotte qu'on appelait des tortues. Vous imaginez la taille de ces très grands rochers. C'est comme ça que Bernadette savait se repérer pour se mettre à sa place. En tous les cas, la terre monte de telle sorte que la Vierge est toujours au-dessus de Bernadette, même si elle est beaucoup plus petite. Et là, elles se font face. Lorsque le 18 février, la dame lui parle pour la première fois, c'est quand Bernadette, face à cette très jeune demoiselle, lui tend cet écritoire face à face, et la dame se met à rire, d'un rire bienveillant, dira Bernadette. Et puis Bernadette trouve ce rire très, très communicatif, elle rira également à son tour, c'est comme ça que commence la parole. Pourquoi il y a ces rires? Eh bien, je pense que Bernadette demande à la Sainte Vierge d'écrire son nom. Quand bien même la Sainte Vierge l'aurait écrit, Bernadette n'est pas du tout capable de le lire, puisqu'elle n'est scolarisée que depuis un mois, depuis le mois de janvier 1858. Elle ne sait pas encore écrire Bernadette, sait-elle faire le B, le E, le R, le N, je ne sais pas toutes les lettres. En tous les cas, Bernadette aurait été incapable de lire ce que la dame aurait écrit, de telle sorte qu'elles sont dans un grand rire et que les premiers mots de la dame sont « n'est pas nécessaire », « ce n'est pas nécessaire ». Qu'on a pu traduire pour comprendre le contexte, ce que j'ai à dire, il n'est pas nécessaire de le mettre par écrit. Alors là, c'est pour qu'on comprenne le contexte. Mais les premiers mots, c'est « ce n'est pas nécessaire ». La Vierge ne vient pas à la grotte. Eh bien, pour écrire, délivrer un message qui serait écrit, elle vient d'abord pour façonner en Bernadette un cœur pénitent, un cœur qui se convertit, un cœur qui est capable de rentrer dans une dimension de réparation, de s'associer à la tristesse de la dame. C'est ce que Bernadette dira, hein, lorsque, après avoir mangé l'herbe, comme la dame lui a demandé, après avoir embrassé la terre, après s'être maculé le visage de boue, parce qu'avant que l'eau soit bien claire, l'eau était pleine de boue, donc quand Bernadette s'est lavé le visage avec l'eau, comme la dame l'a demandé, elle s'est manifestée avec un visage extrêmement rougi, on s'est beaucoup moqué de Bernadette à ce moment-là, et quand l'abbé Penn, un des vicaires de Lourdes, lui demandera « mais c'est une drôle d'idée de manger de l'herbe », elle ne répondra pas comme plus tard au procès « on mange bien de la salade », ce qui n'était pas une mauvaise réponse, puisque c'est une sorte de dorine, une sorte de roquette sauvage que Bernadette mange au bord de la grotte. Et elle va juste répondre « pour les pêcheurs ». Et l'abbé Penn voit le visage de Bernadette se décomposer et devenir extrêmement triste. C'est une drôle d'idée de manger de l'herbe pour les pêcheurs. Bernadette comprend, mystiquement parlant, que la dame, eh bien, la fait rentrer dans une prière qui est de réparation. Elle s'associe à la Sainte Vierge. Ceux qui viennent à la grotte pour voir Bernadette, puisqu'on ne regarde pas une niche dans laquelle on ne voit rien, on vient pour voir Bernadette, sont toujours saisis de voir un visage, eh bien, qui s'illumine et qui parfois devient extrêmement triste. Et quand on demandait à Bernadette, la seule chose qu'elle pouvait dire, parce qu'elle ne s'en rendait pas compte, c'est de dire en fait qu'elle était joyeuse quand la dame était joyeuse, et que dès qu'elle parlait du péché ou des pécheurs, eh bien elle devenait extrêmement grave. Et Bernadette, eh bien, communie à ses sentiments de la Sainte Vierge. Et c'est en fait ce que la Sainte Vierge attend de nous, que nous nous réjouissons, eh bien, avec ceux qui sont dans la joie, comme on dit dans l'Évangile, mais aussi que nous pleurions avec tous ceux qui traversent des épreuves, en nous associant, tout a commencé par le signe de la croix, à la croix de notre Seigneur Jésus, qui est notre seule fierté. Donc pourquoi avoir choisi la grotte de Lourdes? Tout d'abord, c'est un lieu au milieu des eaux, où se trouve un canal creusé par la main d'homme, où se trouve l'œuvre du Créateur, le gave, mais où, malgré cette profusion d'eau, eh bien la Vierge fera jaillir une eau, et une eau de la source. C'est pas à nouveau l'eau du gave ou l'eau du canal qui jaillirait à très très peu de mètres, même pas de mètres à ce moment-là. Eh bien non, voilà que la Vierge fait jaillir l'eau de la source pour venir nous abreuver à l'unique source pour nous qui n'est autre que le corps de notre Seigneur Jésus le Christ lui-même, ou le cœur de notre Seigneur Jésus le Christ. C'est donc cette grotte un lieu obscur, un lieu impur, nous l'avons vu, où la Vierge Immaculée va se révéler. Ça sera également, puisque la demande la plus répétée est celle de la chapelle, le lieu où on va bâtir la chapelle sur le roc. Et la Vierge se manifeste vraiment le 25 mars 1858 comme la mère de l'Église. Elle a déjà demandé à 3 reprises qu'on bâtisse une chapelle et le 25 mars 1858, non seulement elle va dire que Soyera Immaculada Conception et moi je suis l'Immaculée Conception, mais elle fait suivre, sans qu'on ait la formulation exacte, à nouveau, je veux que l'on bâtisse ici une chapelle. Pourquoi bâtir une chapelle? Eh bien parce que c'est la mère de l'Église qui se révèle. Elle est l'Immaculée, ça nous le savions déjà depuis très longtemps dans la tradition de l'Église. Cela avait été affirmé 3 ans et 3 mois, le 8 décembre 1854, par le bienheureux pape Pie IX. Et une fois que cela a été dit, bien la Vierge, elle vient manifester que les quelques mots de cette proclamation dogmatique qui nous dit que dès le premier instant de sa conception, dans le ventre de sa mère, Sainte Anne donc, par un privilège provenant déjà de la mort et de la résurrection du Christ, eh bien la Vierge est conçue sans péché. On parle que des quelques instants, si vous voulez, de sa conception. Et la Vierge vient manifester à Lourdes que ce que le dogme dit des quelques premiers instants de sa conception s'étend également à sa vocation maternelle. Elle n'est pas seulement immaculée pour mettre au monde le Fils, elle est également l'Immaculée pour pouvoir chacun nous concevoir. Parce que le grand problème avec Immaculée Conception, c'est ce mot de conception. La Vierge n'est pas sa propre conception. Non seulement elle est conçue par Sainte Anne et Saint Joachim, mais également la bienheureuse Vierge Marie est là pour concevoir dans l'ordre de la chair notre Seigneur Jésus le Christ. Pourtant, au pied de la croix, le message de Lourdes a commencé par le signe de la croix, au pied de la croix, la vocation maternelle de la Sainte Vierge est manifestée. Nous retrouvons ce même mot, concevoir, qui habite le récit de l'Annonciation. Quelle est la mission de la Vierge? Concevoir et enfanter. Concevoir. Eh bien, la Vierge, non seulement elle conçoit notre Seigneur Jésus le Christ dans l'ordre de la chair, mais elle devient la mère de l'Église. Et donc, elle a une mission, nous concevoir et nous enfanter, non pas dans l'ordre de la chair, ça c'est le privilège de notre mère de sang, mais nous concevoir et nous enfanter dans l'ordre de la grâce. Et l'archange l'a saluée comme la pleine de grâce. Et la Vierge vient du coup répandre ses grâces à nous qui sommes ses enfants. Et saint Paul le dit dans une de ses épîtres que la finalité de Dieu à notre endroit, eh bien, c'est que nous soyons saints et immaculés devant sa face. D'ailleurs, Bernadette, ce 25 mars 1858, avec une sorte de maladresse qui est due à sa mauvaise mémoire, ne fait que répéter tout au long du chemin, murmurer plutôt, comme un exercice d'élocution presque, « Que soyera Immaculada Conception », parce que Conception, elle a beaucoup de mal à le dire, d'ailleurs ça va devenir un Conceptio, parce qu'elle ne sait plus trop qu'est-ce que cela veut dire. Et lorsqu'elle va arriver au presbytère, elle ne va même pas penser à sonner la cloche, à frapper à la porte. Elle ouvre la porte, celle-ci était ouverte. L'abbé Peyramal se demande qui a l'audace de rentrer ainsi dans sa maison. Il voit Bernadette, il la connaît depuis quelques jours, enfin depuis le 2 mars 1858, où ils se sont rencontrés pour la première fois. Bernadette l'avait vue à l'église, mais de loin. Et Bernadette ne va rien dire d'autre que « Je suis l'Immaculée Conception » en se présentant devant son curé. « Que soyera Immaculada Conception ?» Bernadette, elle sait que si sa mémoire est très mauvaise, puisqu'à 14 ans, elle n'a jamais rien mémorisé, et elle sait que si ça ne sort pas tout de suite, elle va l'oublier. Donc elle arrive, elle se présente à son curé, et moi je suis l'Immaculée Conception. Elle voit le sourcil de son curé qui annonce une grande colère. Il était très souvent enroué, notre brave abbé Peyramal, un homme au grand cœur, mais aussi aux grandes colères. Et donc du coup elle se reprend, la dame a dit « je suis l'Immaculée Conception ». Néanmoins, Bernadette s'est présentée. Eh bien, comme la conception de la bienheureuse Vierge Marie, parce que depuis le 11 février, elle est conçue et enfantée dans l'ordre de la grâce par ces extases mystiques, eh bien, que la Vierge lui fait vivre. C'est la deuxième partie de notre conférence. Un parallèle entre Bernadette et Moïse. Alors dire Bernadette, nouveau Moïse, c'est un peu embêtant parce que le nouveau Moïse, c'est quand même notre Seigneur Jésus le Christ lui-même, mais vous allez voir qu'il y a quand même de grandes similitudes entre le grand patriarche Moïse et Bernadette. Alors Bernadette n'a pas été mise dans un panier dans le Gave, n'exagérons pas, on n'en était pas là quand même. Elle est née au moulin de Boli, non loin d'ici. Ça a été 10 années de joie parce que son père a véritablement épousé la cadette, il aurait dû épouser la sœur aînée, c'était dans l'ordre des choses, mais il était amoureux de Louise, elle était blonde, elle avait les yeux bleus, il avait beau dire que c'était une meilleure ménagère, ce n'était pas vrai du tout. Mais en tous les cas, voilà qu'ils font, François et Louise, un mariage d'amour, et à un moment donné, la grand-mère Castéro, puisqu'on vit sur plusieurs générations, hein, dans un moulin, et à cette époque-là, la grand-mère Castéro rentre en ville. C'est bien d'un côté parce que le couple est beaucoup plus libre, si vous voulez, de mener la vie qu'il mène sans avoir la matriarche dans la maison, et puis les tantes qui viennent constamment, le chef de famille, etc. Donc il va y avoir une fête perpétuelle. C'est ainsi qu'on présente la vie au moulin de Bolly. C'est une fête perpétuelle parce que Louise et François sont vraiment amoureux. Ils sont très heureux d'avoir leurs enfants, très heureux de travailler, très heureux d'accueillir tout le monde. Louise passe son temps à faire des beignets, à offrir du cidre à tous ceux qui viennent acheter la farine. Et le problème, c'est que la grand-mère étant partie, c'était elle qui avait un peu la tête sur les épaules. Et du coup, on a beaucoup de monde qui vient acheter de la farine, ou du moins qui vient prendre de la farine et qui paiera plus tard. Et les affaires vont du coup pas mal baisser. Mais Bernadette aura eu, en tous les cas pendant 10 années, cette grâce de vivre dans une famille profondément aimante. On parlera beaucoup des pauvretés de Bernadette, et on pourrait faire des parallèles avec les pauvretés de notre monde. Bernadette, elle, ne connaît pas la pauvreté de notre monde, qui est celle d'une famille un peu disloquée. Bernadette, elle a la grande grâce d'être élevée au sein d'une famille profondément aimante, une famille également profondément chrétienne, qui, malgré les revers de fortune, c'est l'occasion de le dire, ne se révoltera jamais contre Dieu. François et Louise s'efforceront par un travail honnête de chaque jour de trouver du travail. Ils sont devenus journaliers. Donc Bernadette, elle a ce sens à la fois du devoir, ce sens de la vie chrétienne, et ça, c'est une véritable richesse pour elle, qui aura vraiment structuré la vie de Bernadette. Alors, Bernadette, le 11 février, lorsqu'elle se rend à la grotte bénie, c'est pour aller chercher du bois. On se rend compte vers 11h qu'il manque du bois. Alors on envoie Toinette, Bernadette, Balloune, une amie, pour cette tâche. On n'est pas très heureux d'accompagner Bernadette à la grotte. Pas heureux du tout, même, parce que Bernadette, elle a beaucoup de mal à marcher, beaucoup de mal à courir. Bernadette est toujours essoufflée, Bernadette est toujours fatiguée, et la jeune sœur de Bernadette, Toinette, et son amie Balloune seraient passées de la sœur aînée, qui va un petit peu tempérer leur jeu, leur rappeler leurs différents devoirs. De telle sorte que lorsque Bernadette arrive à la pointe de l'île du Chalet, Toinette et Balloune ont déjà traversé le canal de sa vie. Et une fois qu'elles l'ont déjà traversé, Bernadette leur fait signe: aidez-moi à traverser, Balloune, tu es plus âgée, prends-moi sur ton dos. Non, parce qu'on est agacé que la grande sœur soit venue avec nous, alors on n'en a pas envie du tout, puis là il n'y a pas les parents, alors on lui dit non, j'ai pas envie. Alors ensuite, Toinette, Bernadette lui demande: mais jette des pierres, tu sais bien que je ne dois pas me mouiller mes bas de laine, etc. Oh, mais on va jouer, tu n'as qu'à te débrouiller, etc. Et elles partent chercher du bois, de telle sorte que Bernadette se trouve seule à la pointe de l'île du Chalet. Alors ce qu'on appelle la pointe de l'île du Chalet, je vous ai dit, il y a le canal de sa vie qui fait comme une sorte d'île entre le Gave et le canal. Et Bernadette est à la pointe, elle est juste en face de la grotte, elle est en face du canal de sa vie, mais derrière elle, très près d'elle, passe également le Gave. On est au milieu des eaux. La première chose qui saisit Bernadette ce jour-là, c'est ce fameux coup de vent que l'abbé Beaumian gardera en mémoire pensant aux Actes des Apôtres. Elle reçoit un fort coup de vent de son capulet de laine que vous pouvez voir lorsque vous visitez le cachot. Dans les vitrines, avant d'arriver au cachot, il y a notamment le lourd capulet de laine de Bernadette. Alors c'est assez lourd un capulet, c'est assez long, ça arrive en bas de la taille, ça veut dire qu'il fallait quand même une grande bourrasque de vent pour vraiment faire virevolter le capulet. Ce qui étonne profondément Bernadette, c'est qu'elle reçoit un fort coup de vent, elle a quand même des arbres tout autour, puisque au-dessus, c'est ce qu'on appelle la route de la forêt. Donc, tout le monde est espélugue et plein d'arbres et rien ne bouge. Bernadette est étonnée. Enfin, pourquoi pas? Donc, elle est en train d'enlever ses bas de laine, résolue à traverser elle-même l'eau glacée, quand elle lève la tête, parce que maintenant, ce qui la retient, c'est un buisson. Dans la niche, il y avait juste en bas un buisson. Alors c'est intéressant de voir dans l'histoire de Lourdes comment on en parle. Alors tout d'abord ça commence, c'est un simple buisson. Puis on se dit quand même, la dame, elle apparaît au-dessus d'un buisson. Qu'est-ce que donc ce buisson? Bon, c'est un rosier sauvage, un églantier. Bon, très bien. Puis alors on finit après les apparitions, le rosier. Alors ce n'était pas vraiment un grand rosier comme nous l'imaginons, mais c'était vraiment un buisson épineux sur laquelle la Vierge va apparaître. Ce qui étonne Bernadette, c'est qu'elle voit ce buisson fortement bouger, un peu comme Moïse. Lorsque Moïse a quitté la cour de Pharaon avec perte et fracas, et qu'il se rend chez celui qui va devenir son beau-père, Jéthro, pour garder le troupeau, vous vous souvenez cet épisode du livre de l'Exode, Moïse voit au loin un buisson qui brûle sans se consumer. Alors on est en plein désert, un buisson brûle, et bien une fois qu'il n'y a plus rien à brûler, il s'éteint. Bernadette, elle est saisie parce qu'elle voit ce buisson fortement bouger, un peu comme s'il y avait plusieurs oiseaux prisonniers à l'intérieur. Vous avez déjà eu cette expérience d'avoir tout d'un coup des oiseaux qui se sortent d'une haie ou comme ça, on voit comment ils font tout bouger. Donc Bernadette est saisie parce qu'elle voit ce buisson qui ne fait que bouger. Et au-dessus de ce buisson, le buisson n'est pas en feu, n'exagérons pas, mais quand même, au-dessus de ce buisson, elle commence à voir poindre une lumière. Et une lumière qui petit à petit grandit. Et à chacune des apparitions, la Vierge apparaît grosso modo à la seconde dizaine pour Bernadette de son chapelet. Elle verra d'abord arriver la lumière, poindre toute petite, grandir, et puis elle va à travers cette lumière, comme le 11 février, non pas d'abord voir une jeune demoiselle. Elle voit donc ce buisson qui a beaucoup bougé, cette lumière, et à travers cette lumière, ce qui saisit Bernadette le 11 février, c'est qu'elle voit un sourire. Et c'est à travers ce sourire, petit à petit, qu'elle va voir se dessiner la forme d'une très jeune demoiselle dont elle donnera la description, la robe blanche et la ceinture bleue. Là où Jean-Baptiste portait sa tunique en poil de chameau et sa ceinture de cuir autour des reins, ben la Notre-Dame de Lourdes, elle porte sa robe blanche et sa ceinture bleue. Il y a eu d'abord ce grand sourire lumineux et ensuite l'apparition de la dame. Bernadette est fortement saisie et même effrayée. Tellement effrayée qu'elle prend les deux paumes de sa main pour s'écraser fortement les globes oculaires. Quand je dis fortement, c'est qu'elle nous racontera qu'elle a mis quand même 4 à 5 secondes avant d'y revoir. Donc c'est qu'elle a bien appuyé. Parce qu'elle se dit qu'elle ne peut pas voir ce qu'elle voit. Elle n'est pas folle. Et pourtant, elle voit toujours le grand sourire de la dame, et cette dame qui lui fait signe d'avancer. Ça, Bernadette, elle ne se le sent pas du tout. D'abord parce qu'elle n'a pas encore passé l'obstacle de traverser notre fameux canal de sa vie, mais aussi parce qu'elle ne connaît pas cette dame. Alors Bernadette a un projet ce jour-là, plonger dans sa main et chercher son chapelet. Le chapelet, pour Bernadette, c'est à la fois le chapelet de la prière. Chaque soir, la famille se réunit au cachot, ou jadis au moulin de Boli, ou dans les autres moulins où ils ont vécu, pour réciter le chapelet familial avant que tout le monde n'aille au lit. Mais ce chapelet, pour Bernadette, c'est aussi le grand réconfort de ses crises d'asthme. Bernadette a beaucoup d'asthme. Lorsqu'elle s'étouffe, eh bien, elle prend toujours ce chapelet pour demander, justement, la protection de la bienheureuse Vierge Marie. Donc là, Bernadette, voyant cette dame, voyant quelque chose qu'elle comprend ne pas pouvoir voir, eh bien, plonge la main dans son tablier pour saisir ce chapelet. Elle a un projet, tracer le signe de la croix avec la croix du chapelet, parce qu'elle sait, elle n'a pas beaucoup de catéchisme, mais elle a beaucoup d'intuition chrétienne, elle sait que le signe de la croix fera fuir le démon. C'est déjà une œuvre et un geste puissant que de tracer sur nous le signe de la croix, l'invocation à la Trinité Sainte, et puis c'est bien par la croix que le Seigneur nous a sauvés. Sa peur ne va faire qu'augmenter, parce que tout ce qu'en quelques secondes elle a décidé de faire, elle voit devant elle la dame prendre les devants, lui paralyser son bras, ne plus pouvoir le bouger, et voir la dame faire ce qu'elle a prévu de faire, attraper son chapelet qu'elle laisse glisser sur son coude, prendre la croix de son chapelet et la dame de tracer un long et grand signe de croix qui a toujours profondément marqué Sainte Bernadette. Il y a quelques gestes comme cela que Bernadette fera après les apparitions, des gestes qui sont un peu comme des reliques, si vous voulez, porteurs de quelque chose d'autre, qui vont transparaître. Lorsque Bernadette trace le signe de croix, il y a quelque chose qui transparaît. La voyante également de Lille Bouchard, merci, dont nous avons la vidéo lorsqu'elle raconte, Jacqueline Aubry, lorsqu'elle raconte les apparitions, non seulement elle a une grâce, parce qu'elle est comme une petite fille, quand même malgré l'âge parfois plus âgé qu'elle avait, je pense qu'elle a vraiment cette grâce d'être à nouveau à la grotte quand elle raconte cela, parce que la façon dont elle parle, dont elle raconte, c'est encore une petite fille qui nous raconte ce qu'elle a vécu à l'île Bouchard, mais surtout, dans ses vidéos, on voit à la fin, Jacqueline tracer le signe de croix comme elle a appris de faire de la dame, et c'est saisissant. Et lorsque Bernadette a vu ce signe de croix, ça l'a profondément marqué. Et à Nevers, on s'était rendu compte que quand Bernadette faisait le signe de croix, il y avait un quelque chose qui passait. On avait remarqué également deux choses. Quand Bernadette fera le geste que la dame avait fait lorsqu'elle lui a dit qu'elle était l'Immaculée Conception, c'est en fait le geste de bénédiction traditionnelle des prêtres à l'intonation du Gloria, du Credo. Les mains se baissent sur la terre. Un arrêt sur image nous ferait présenter la Vierge comme à la médaille miraculeuse. Puis elle attrape le ciel pour le faire descendre sur la terre. C'est dans ce geste. Et quand Bernadette fera ce geste, notamment auprès de Monseigneur Laurence, eh bien, un quelque chose en passera. Mais il y a également quelque chose qui doit retenir notre attention, qui est moins lié aux apparitions. C'est que également les sœurs de Nevers diront qu'il y avait quelque chose qui transparaissait de Bernadette pendant l'action de grâce qu'elle faisait après la Sainte Communion. Voilà un peu les trois moments de Bernadette, le signe de croix surtout, l'action de grâce à la communion, et après le geste qu'elle avait vu faire, elle ne le faisait pas tous les jours. Il y a quelque chose qui a profondément marqué Bernadette voyant ce signe de croix. Elle a peur. Et une fois que la dame a fait ce signe de croix, voilà que son bras retrouve la mobilité et elle peut, à la suite de la dame, tracer elle aussi ce signe de la croix. Bernadette, une fois qu'elle est là, elle est donc à genoux et elle va donc réciter le chapelet en présence de la dame. Une fois que ce chapelet sera terminé, la dame, une fois encore, lui fait signe de bien vouloir avancer. Mais Bernadette ne se le sent toujours pas, alors la dame disparaît tout d'un coup. Et reste cette lumière qui, petit à petit, eh bien, se rétrécit et finit au-dessus de ce buisson. Au-dessus de ce buisson, qui est donc un rosier, comme on pourrait dire, un églantier sauvage, la dame apparaît sans chaussures. Les petites filles de l'école de Bernadette se moqueront d'elle en disant « Bernadette, 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 elle va voir une va-nu-pied à Massabielle ». Puis Massabielle, vous savez que c'était la tute au cochon, donc vous imaginez un peu comment on pouvait se moquer d'elle à l'école. Elle va voir une va-nu-pied. Sur ses pieds, la dame eh bien, apparaît avec deux roses et elle est bien debout sur un rosier. Deux roses, Bernadette ne nous dira pas que ces roses sont jaunes, comme on pourrait le penser, ni même d'or. Elle fait un parallèle. Elle nous dit que les roses sur ses pieds sont de la même couleur que la chaîne de son chapelet. Or, elle nous a dit que sa chaîne de chapelet était dorée. Donc, les roses sont bien d'or. C'est aussi l'un des aspects du message de Lourdes, qui ne se dit pas qu'en paroles, mais c'est la prière du chapelet. Jamais il n'y a un mot dans le message de Lourdes pour nous dire « il faut prier le chapelet, mes enfants ». Pourtant, le chapelet, il est toujours très visible. La dame l'a toujours en main et est toujours en train de le réciter avec Bernadette. De même, Bernadette a toujours son chapelet à la grotte. Et tous ceux qui vont venir à la grotte attendre l'arrivée de Bernadette ne cesseront de dire d'innombrables chapelets, rosaires, qui continuent aujourd'hui par notre prière. Donc voilà cette dame qui vient demander la prière aussi du chapelet que l'on appelle le rosaire, de telle sorte que des roses à son rosaire, le silence de la dame est d'or parce qu'il ne parle pas du chapelet, mais c'est bien ce qu'elle nous invite à faire à travers le chapelet, à méditer tous les événements de la vie de son fils. C'est ce que va faire Bernadette. On demande à Bernadette, mais Bernadette, est-ce que vous avez vu, entre guillemets, autre chose que la dame ? Il y a eu bien des âmes privilégiées qui ont eu des visions de la Passion ou de je ne sais quel épisode de la vie du Seigneur. Rien de cela pour Bernadette, excusez du peu. Elle ne voyait que la dame. Et cela la ravissait. Donc, ce 11 février, il y a eu ce chapelet. Une fois que Bernadette va traverser le canal de sa vie, elle se lève, donc la dame est partie. Elle traverse ce canal et voilà que reviennent Toinette et Balloun qui, elles, reviennent avec des paniers chargés d'eau et le vin d'os, il faut le prononcer comme ça pour comprendre, et de bois, parce qu'on vend aussi les eaux comme sorte de charbon, ça se vendait plus cher que le bois, pour les poêles. Et donc Bernadette traverse cette eau dont elle avait vu Toinette et Balloon pleurer de froid, parce qu'on est en février, et essuyer leurs jambes avec leurs jupons. Et leurs jambes étaient rouges. Bernadette a traversé ce canal, à nouveau Moïse, et leur dit « Farceuse que vous êtes, mais cette eau est bonne !» Et on regarde ses jambes et on voit qu'aucune de ses jambes ne porte la marque d'un froid saisissant. Et puis Bernadette a vraiment traversé cette eau avec beaucoup de facilité, malgré le courant du moulin. Bernadette leur demande « N'avez-vous rien vu ?» Elle a une petite réponse bien sentie de Balloon lui disant « Moi, je vois que tu n'as surtout rien ramassé. » Et Balloon se dit « Je vais quand même pas encore maintenant faire mes 2 kilomètres pour retourner au cachot avec Bernadette qui ne va pas avancer. » Donc elle remercie Toinette, elle prend son panier et elle rentre à Lourdes, de telle sorte que Toinette et Bernadette se retrouvent seules à la grotte. Alors il n'est pas question de retraverser le canal pour prendre le chemin par lequel on est arrivé, il est question de monter la ravine creusée par ces innombrables pores lorsqu'ils descendaient de la route de la forêt, aujourd'hui la route Monseigneur Théas de la Maison des Chapelains, pour arriver à la grotte. Donc vous imaginez une pente raide, on finissait souvent, les dames la plupart du temps, finissaient cette arrivée sur le bas de leur robe pour rester polie. Madame Millet, 18 février, eh bien elle a fini comme ça, en tombant, en glissant comme elle pouvait. Et René Laurentin a une très jolie expression qui va vous faire rire, c'est qu'une fois qu'elle arrive et qu'elle se relève, elle recompose son autorité pour se présenter à Bernadette. Donc, vous voyez, Bernadette, elle, il va falloir remonter une ravine extrêmement pentue, porter les padiers, et c'est le travail de Toinette que d'assister toujours Bernadette, de l'aider à avancer, de l'aider à porter un panier, parce que Bernadette, avec son asthme, est toujours essoufflée, et essoufflée, c'est qu'elle peut y rester à chaque instant. Et là, c'est le monde à l'envers. Non seulement Toinette vient de voir que Bernadette était quand même assez intriguée, elle l'a vue de loin, elle a eu très peur, parce qu'elle l'a trouvée très blanche, de loin, donc c'est bien qu'il y avait déjà un visage un peu transparent de Bernadette, et contre toute attente, Bernadette prend le panier, prend Toinette par le bras et aide Toinette à monter la ravine. Alors Toinette lui dit « Mais c'est pas comme ça d'habitude, c'est pas dans l'ordre des choses. » Elle lui dit « Que veux-tu, c'est comme ça aujourd'hui. » Et donc, voilà que Bernadette ne sera pas du tout essoufflée pour retourner au cachot. Elle retrouvera ses crises d'asthme. On lui demandera « Mais pourquoi la Vierge ne vous a pas guéri ?» Et l'Église n'a pas aimé la réponse. « Peut-être que la dame veut que je souffre. » C'est ce qu'a répondu Bernadette. Et sur le chemin, elle va donc confier à Toinette ce qu'elle a vu, avec surtout un grand désir, comme j'aimerais la revoir. Bernadette, nouveau Moïse, c'est déjà que lorsque Bernadette va rentrer dans la grotte, pour la première fois, elle a été intriguée, je vous l'ai dit, par ce buisson lumineux un peu comme Moïse, mais elle va rentrer pieds nus, comme Moïse qui sera pieds nus devant ce buisson ardent. Ceci est une terre sainte ou une terre sacrée. Lorsque Bernadette entre à la grotte, Toinette et Balloon, donc, ils sont là pour l'accueillir, elles, pour se réchauffer, se mettent à sautiller et à danser. Et immédiatement, Bernadette fait arrêter les sauts et les danses. Parce que maintenant, à la grotte, on va s'y comporter comme à l'église. Cette terre est une terre sainte, une terre sacrée. Lorsque nous suivons la vie de Moïse, il y a, une fois qu'on a traversé la mer à pied sec, avec l'armée de Pharaon engloutie dans les eaux, eh bien, on arrive dans un lieu où on commence à avoir soif. Nous sommes à Massa et Meriba. Alors, à Massa et Meriba, c'est le lieu vraiment où le peuple se met à se récriminer contre Dieu et à finalement se dire qu'on n'était pas si mal esclave en Égypte quand on avait les marmites pleines, plutôt que libre dans un désert où il fait très chaud, on n'a rien à manger et on a soif. Alors Moïse, en intermédiaire divin, fait part au Seigneur du mécontentement de son peuple. Et avec ce bâton, ce fameux bâton qui accompagne Moïse, le bâton du patriarche, ce bâton qu'il a jeté à la cour de Pharaon qui s'est transformé en serpent et qui a mangé tous les autres serpents des autres magiciens, le fameux bâton avec lequel il fait ouvrir la mer Rouge, c'est vraiment le bâton qui est l'image de cette puissance qui lui vient de Dieu. Eh bien, Moïse, là, prend son bâton sur l'ordre de Dieu et tape le rocher, et du rocher, il en jaillit de l'eau. Et les Saintes Écritures nous disent, nous sommes à Massa et Meriba. Eh bien, nous sommes à Massa, Biel. lorsque Bernadette, sur l'ordre de la dame, ne va pas prendre un bâton pour taper le rocher, mais c'est bien ce qui va se passer. Le 25 février, c'est-à-dire c'est l'apparition qui est au centre des apparitions. C'est l'apparition centrale. Un mois après, elle révélera son nom, mais là, on est au cœur même des apparitions. Le 25 février, après la prière du chapelet, Bernadette s'est levée pour opérer les gestes de pénitence qu'elle a maintenant l'habitude d'accomplir, embrasser la terre, manger l'herbe, et la dame lui dit d'aller à la source, boire et se laver. Bernadette se lève, la dame lui fait un signe bien précis, lui indiquant le lieu de la source, mais Bernadette se dit, la dame est bien gentille, elle n'est pas bigourdane et connaît pas les lieux. Il n'y a pas d'eau là-bas, mais par contre, il y en a derrière moi. Il y a le canal de sa vie et il y a le Gave. Alors Bernadette, elle a beau voir la dame faire des gestes, je ne dis pas que la dame fait des gestes désespérés, n'exagérons pas, gardons la dignité de Notre-Dame. Mais Bernadette, elle, à plusieurs reprises, va se rendre du mauvais côté. Un peu comme Jonas, vous savez, Jonas, dans les Saintes Écritures, Dieu lui dit, voilà, tu dois aller à Ninive, évangéliser la grande ville, enfin évangéliser, c'est un peu tôt, prêcher la conversion à la population de Ninive. Et Jonas se dit, je suis trop petit, je suis trop jeune, je suis vraiment pas taillé pour une telle mission, donc je vais prendre le premier bateau pour partir à l'opposé. Et c'est dans ce fameux désobéissance, eh bien, que Jonas permettra, par sa désobéissance, parce que Dieu se sert toujours même du mal que l'on commet, pour arriver à un bien plus grand, eh bien, une fois qu'il va finir dans l'eau, parce qu'il va être jeté dans l'eau, tant la tempête va se déchaîner, eh bien, on va invoquer les marins, le dieu de Jonas, parce que la mer s'est aussitôt calmée. Donc, vous voyez, Dieu s'est servi de la désobéissance de Jonas pour convertir les marins de son bateau. Puis après, Jonas, recraché par le ventre du monstre marin, finira par aller convertir Ninive, du moins prêcher cette conversion. Il fallait 3 jours pour la traverser, et au bout d'un jour, le roi a déjà décrété un jeûne, et la population répond déjà à cet appel de conversion. Alors la Bienheureuse Vierge Marie va aussi se servir de la désobéissance de Bernadette. Désobéissance répétée. Le 26 février, la Vierge n'apparaîtra pas. Bernadette sera meurtrie, parce qu'elle a ressenti l'appel de la grotte, elle arrive à la grotte et la Vierge ne se montre pas. Et pour Bernadette, c'est vraiment parce qu'elle a désobéi à la dame. Parce qu'à 4 reprises, la dame avait beau lui indiquer le lieu de la source, elle n'en a fait qu'à sa tête. Elle n'en a fait qu'à sa tête, marchant à genoux, on ne sait comment, enjambant des rochers, c'était surréaliste. Elle finit par arriver au lieu indiqué par la dame. Alors n'imaginons pas d'abord le grand geyser, on n'est pas dans un film américain. Bernadette, je pense, n'a même pas compris que c'était une source au moment même où elle va boire un peu de bouillasse, en fait. Une fois qu'elle arrive à la grotte, comme la terre rentrait régulièrement, Bernadette, qui n'est déjà pas grande, 1,40 m, n'entre même pas debout au lieu où il y a la source, ce qui veut dire qu'il y a beaucoup de terre. Donc elle va être à moitié accroupie, à moitié allongée, pour, avec ses petits doigts, creuser un petit peu cette bouillasse, puisque la dame ne fait que lui dire d'aller boire là, donc elle boit. Elle voit un peu, et elle a encore désobéissance de Bernadette. Elle a de désobéissance, oui. Elle le dira du moins. La dame lui a dit de boire et de se laver. Et quand elle voit la tête de l'eau dans le clos de sa main, elle la rejette 4 fois. Et au bout de la 4e fois, elle dit, bon, mais là, je ne peux plus boire. Et elle a cette expression, c'est dans le français de l'époque, cela excitait ma répugnance. C'est que ce n'était pas bon du tout. Et ensuite, elle s'est lavé le visage, mais du coup, avec cette eau qui est en fait une sorte d'argile. Puis je vous ai dit, qu'est-ce qu'il y avait à Massabielle du sang et de l'eau? Le sang des porcs, des poils, enfin, c'était vraiment pas propre. Hein. Embrasser le sol, les gens de Lourdes comprennent qu'il ne s'agit pas d'embrasser un sol propre. Mais embrasser le sol de Massabielle, c'est le lieu où les porcs ont fait toute leur déjection, où il y a les poils, il y a du sang, il y a de l'eau, c'est dégoûtant. Eh bien, Bernadette va le faire à ce moment-là. Elle va boire à la source et se laver. Ce n'est que dans l'après-midi qu'une jeune fille, qu'on retrouve régulièrement dans les apparitions, Pérard est le prénom, je crois que c'est Antoinette, mais je ne suis pas sûr. Enfin bref, on va dire Mademoiselle Pérard, ça fait un peu prétentieux, mais je ne me rappelle plus son prénom. Elle va prendre Éléonore. Éléonore Bérard. Elle va arriver l'après-midi parce qu'elle a suivi Bernadette, elle va voir où est-ce qu'elle avait pris un petit peu cette eau. Elle va arriver, elle, avec un grand bâton, alors un peu comme Moïse là pour le coup, puis elle va triturer tout cela, et là on va se rendre compte effectivement qu'il y a de l'eau, qu'il y a une source, et la première bouteille partira le 25 février de la grotte de Lourdes pour un malade dans la ville de Lourdes. Donc vous voyez que ça commence à ce moment-là. Comme Moïse, Bernadette a été l'instrument choisi, eh bien, pour faire jaillir de l'eau du rocher la source. Autre parallèle avec Moïse, et nous en finirons là. Moïse va être choisi comme le porte-parole, ou pas porte-parole, mais comme celui à qui va être révélé, alors pour les Juifs surtout la Torah, la loi, la pureté de la loi, mais aussi ben, les commandements et tout ce que Moïse va pouvoir vivre de proximité avec Dieu. Moïse est-il un prophète, est-il un patriarche? En tous les cas, il est celui qui a été le plus proche d'avec Dieu, puisque Dieu descendait dans la tente de la rencontre. Problème d'une telle proximité, il y a toujours des problèmes, le peuple n'est jamais content, nous le savons. Le problème avec Moïse, c'est que donc Moïse rencontre Dieu sur le mont Sinaï ou après dans la tente de la rencontre, mais c'est que, oh, mais ce Moïse, il est éblouissant, il fait mal aux yeux. Une fois qu'il a vu Dieu, on ne peut pas tenir son regard tellement son visage est devenu lumineux. Lumineux après la rencontre d'avec Dieu. Donc le visage lumineux de Moïse, comme celui de Bernadette, ce n'est pas comme les projecteurs que j'ai au-dessus de moi, des projecteurs qui m'éclairent moi maintenant. C'est que le visage de Bernadette, comme de Moïse, devient lui-même lumineux, incandescent. Tous ceux qui ont vu Bernadette dans les premières parties des apparitions feront état de cet état d'extase, dans lequel le visage de Bernadette d'abord est magnifié. Il est beau. Bernadette a un visage, je ne dis pas ça méchamment, hein, un visage quelconque. On n'a jamais parlé de Bernadette Soubirous comme d'une beauté incomparable dans la ville de Lourdes. En revanche, lorsqu'il y a les apparitions, que Bernadette avec ses grands yeux noirs, c'est pas les grands yeux bleus de sa mère, hein, les grands yeux noirs sont grands ouverts, ils ne clignent plus. 14 février, Antoine Nicolo fera état de nombreuses larmes sur le visage de Bernadette, qui les suivra avec ses gros doigts de meunier. Bernadette n'est pas spontanément la plus belle des jeunes filles de Lourdes, mais pendant les apparitions, on fait état de la grande beauté de Bernadette et de cette grâce incomparable que l'on n'a jamais vue chez quiconque, si ce n'est peut-être sur Rachel, l'une des premières starlettes de nos théâtres de cette époque-là, qui était décédée, je crois, en décembre 1857, et la population était un peu émue qu'on parle plus du décès de cette Rachel, actrice, que du ministre de la Justice, qui lui était mort, mais on n'a pas fait grand article à ce sujet. Donc on voit déjà que ça commence ce côté un peu de théâtre et de grande actrice. Alors on va comparer Bernadette, cette grâce de Bernadette, la beauté de Bernadette, ce visage lumineux. Un visage lumineux, donc, qui s'illumine et qui, même à quelques apparitions, se met à clignoter. Alors là, si vous voulez, c'est un peu cocasse. La dame lui parlait sans doute tantôt de joie et tantôt du péché, ou de la joie qu'il y a à se convertir et du péché. En tout cas, beaucoup ont rapporté qu'à certains jours, un coup, le visage est blanc, et puis il devient terne, et puis il redevient bien blanc lumineux, puis il redevient terne. Vous voyez, là, il y a encore un parallèle avec Moïse. C'est vraiment ce côté du visage lumineux. Alors, il y a Moïse qui devait mettre un voile pour pouvoir se présenter au peuple. Bernadette n'en est pas arrivée là quand même, ce n'est que pendant les apparitions. Elle n'a jamais constaté qu'elle avait ce visage lumineux, c'est ce qu'on pourra lui rapporter, mais tout ce qu'on lui rapporte sur elle-même, elle n'en a rien à faire, parce qu'en fait, elle n'écoute pas tout ce qu'on veut lui rapporter. Elle rentre au cachot, elle remène sa vie toute simple, sans se complaire dans l'image qu'on pourrait lui renvoyer de voyante ou de mystique. Tout cela ne l'intéresse guère. Même lorsque la Vierge n'apparaîtra pas, qu'elle ne ressentra pas l'appel à la grotte, elle n'ira même pas à la grotte. Elle n'est pas du tout intéressée, Bernadette, au sens où se dire, ben moi je vais continuer à y aller en cas que je la revois. Ou... Non. Et on lui dit, mais vous n'allez pas à la grotte? Et elle répond, pourquoi faire? Elle ne va à la grotte quand la dame l'y invite, sinon aller à la grotte de Massabielle, c'est pas passionnant pour elle. Donc Bernadette a ce visage vraiment lumineux à un grand nombre de reprises. Quand la dame va lui parler de pénitence, le visage là ne sera plus lumineux du tout, il sera terne au contraire, et après, avec la révélation du nom de la dame, on retrouvera aussi ce côté saisissant de ce visage. Enfin, Moïse, non seulement était choisi par Dieu pour être le porte-parole de cette révélation divine, mais l'un des problèmes de Moïse, c'est qu'il est bègue. Voilà encore une fois la pauvreté de l'instrument choisi par le bon Dieu. Moïse le dira en ces termes, « J'ai la bouche lourde et la langue... » Je ne sais plus si c'est accablé, surchargé ou quelque chose. Enfin, du moins, il a du mal à parler, raison pour laquelle il choisira ensuite Aaron pour être son directeur de communication, dirions-nous aujourd'hui, son porte-parole. Parce que Bebeg, qui doit nous raconter les 10 commandements et toutes les... Voilà, ça devient fatigant. Déjà, des articles de loi, c'est déjà pas commode à entendre. Il n'y a que Fernandel pour nous faire rire avec des articles de loi sur différents... Je ne sais pas si vous avez vu ça, c'est merveilleux. Il nous fait les différents sentiments humains en nous donnant un article de loi. Il n'y a que lui pour nous faire rire. Et donc, on ne trouvait sans doute pas ça très drôle de Moïse. Et donc, du coup, Aaron est le porte-parole. Lorsque Monseigneur Laurence fera son mandement, ben, il dira « Qu'est-ce qu'a choisi le bon Dieu ?»« Comme toujours, dira Monseigneur Laurence, ce qu'il y a de faible et de pauvre dans le monde a été choisi, dira Saint Paul, pour confondre eh bien, la sagesse des puissants. » Voilà Bernadette, elle n'est pas belle, il ne lui manquait plus que ça, pauvre jeune fille, mais elle n'a pas de mémoire. Bernadette, parce que c'est une extase mystique, a beaucoup de mal à mettre des mots sur ce qu'elle vit, parce que ça s'adresse à son cœur et pas d'abord à son intelligence. Donc même quand on lui demande le 25 février, mais qu'est-ce que vous, pourquoi vous avez bu de la boue, elle va mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps à se ressaisir, d'abord parce qu'elle ne sait pas, je crois, dire ce qu'elle vit, du point de vue mystique, et ensuite elle va juste se rappeler comme un éclair la phrase « Allez à la source, boire et vous lavez ». Et Bernadette ne l'aura dit que ce jour-là à l'abbé Penn. Donc vous voyez, il y a beaucoup de messages, Bernadette ne passe pas son temps à le répéter. Donc voilà encore une fois la pauvreté de l'instrument. Mais nous aussi, on pourrait se dire, finalement, on n'est pas les meilleurs, hein, on n'est pas les plus vertueux, on n'est pas les plus je ne sais pas quoi, mais voilà que Dieu nous choisit malgré tout. Parce que par nos faiblesses, il va pouvoir manifester sa grandeur. C'est une grande vertu que l'on appelle l'humilité. Reconnaître que l'on est petit pour que Dieu manifeste sa grandeur. Et bien voilà un petit peu ce que je voulais vous dire ce matin. Une vision de la grotte de Lourdes qui nous permet de comprendre pourquoi la dame l'a choisie. C'est le lieu de l'impureté où la toute pure vient se révéler. C'est le lieu où elle va venir, la Vierge, reprendre le ministère de Saint Jean le Baptiste, nous appelant à la conversion. Et puis Bernadette, dépositaire de ce message, qui, comme Moïse, entrera les pieds nus à la grotte de Lourdes. Cette terre est une terre sainte, intriguée par ce buisson lumineux, un peu comme Moïse. Comme Moïse à Massa et Meriba, Bernadette à Massabiel fera jaillir l'eau du rocher sur l'indication de la dame. Puis Bernadette, malgré la pauvreté de l'instrument choisi, aura aussi cette grâce de ce visage illuminé, comme les évangélistes nous le rapportent pour la transfiguration du Seigneur. On nous dit bien qu'il avait le visage brillant comme le soleil. C'est bien que le visage du Seigneur, comme de Moïse et comme de Bernadette, était lui-même incandescent. Eh bien, demandons à Sainte Bernadette eh bien, de nous aider, nous aussi, chaque jour, à demeurer unis à la Vierge, que nous puissions passer eh bien, avec elle de cette impureté à la pureté. Ce sont deux critères bibliques très importants dans les Saintes Écritures. Et puis qu'elle nous aide eh bien, à nous concevoir et à nous enfanter chacun dans l'ordre de la grâce, comme elle l'a fait avec Bernadette. Le Seigneur fit pour moi des merveilleux saints. Son nom. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles, saint et son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés. Renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur. Il se souvient de son amour,
de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur fit pour